Radio Libertaire fête ses 25 ans.
Salle Olympe de Gouges et c'est à Paris. Donc voilà.
Radio Libertaire 89.4, Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître, la voix de la Fédération anarchiste.
Bonjour.
Et oui, c'est bien sûr Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste.
Léo Ferré sur les ondes de Radio Libertaire.
Le monde libertaire.
C'est les 25 ans de Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et à tous. Serge au bout de la scène, c'est
bonsoir.
Reparti.
À toutes et à tous, bonsoir et à la semaine prochaine.
Bonsoir, bonsoir à tous et bonsoir à toutes, c'est Trafic.
Bonjour les chroniques rebelles, au revoir.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, c'est la philanthropie de l'ouvrier charpentier.
Bonjour à tous nos auditeurs.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste.
Donc voilà, la carte d'auditeur, carte d'auditrice, c'est toujours à Publico au 145 de la rue Amelot dans le 11e arrondissement de Paris.
Eh bien bonjour à tous, c'est Folcali Accordéon sur Pareil sur Radio Libertaire 89.4 et pour nos auditeurs d'internet, eh bien ben bonjour puisqu'il paraît que ça marche, alors profitez-en.
Radio Libertaire, ça booste sous les pavés.
Yann Amicom de la Pazia Unio.
Fédération-anarchiste.org, fédération-anarchiste.org.
Libertaire, la fréquence, vous la connaissez, 89.4, notre téléphone 43-71, 89-40.
Radio Libertaire, 89.4.
C'est parti pour deux heures de PL, le Parisien Libertaire, tranquillement, vous savez.
Radio Libertaire, ça va bientôt faire, ça fait 25 ans que Radio Libertaire existe, 25 ans grâce à vous, en grande partie. Alors merci et continuez d'être derrière nous.
Mais en tout cas, on va quand même choisir une date, c'est au mois de novembre, et d'ici le mois de novembre, on vous prépare plein de grosses surprises, et surtout les fameux deux jours du 18 et 19.
We'll be right back.
dimanche, les bras tout chargés de fleurs, je suis entrée dans notre chambre, le cœur là, car je savais déjà que tu ne viendrais pas. Et j'ai chanté des mots d'amour et de douleur. Je suis restée toute seule et j'ai pleuré tout bas en écoutant hurler la plainte des frimas. Sombre dimanche, je mourrai un dimanche où j'aurai trop souffert. Alors tu reviendras, mais je serai parti. Des pierres brûleront comme un ardent espoir. Et pour toi, sains et forts, mes yeux seront ouverts. N'aie pas peur, mon amour, s'ils ne peuvent te voir. Ils te diront que je t'aimais plus que ma vie. N'aie pas peur de mes yeux s'ils ne peuvent te voir. Ils te diront que je t'aimais plus que ma vie. Sombre dimanche. Maître de la terre, nous nous croyons des presque dieux, et pan, le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous sommes, des pouilleux. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous et crient au fou, au fou. Nous nageons tous dans la bêtise et l'on invente des drapeaux. On met des couleurs aux chemises, sous la chemise, il y a la peau. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous et crient au fou, au fou. Écoutez le monde en folie, vive la mort, vive la faim, pas un cri, vive la vie, nous sommes tous des assassins. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous et crient au fou. Au fou, c'est toute la terre qui gronde. Bonne saison pour les volcans. On va faire sauter le monde. Cramponnez-vous tous pour le camp. Et là-haut, les corbeaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent comme des fous et crient à nous. La vie pourrait être si belle si l'on voulait vivre d'abord. Pourquoi se creuser la cervelle quand il y a du bon soleil dans la nuit, sous le ciel qui luit le soir. Amour dont la tendre voix fait renaître en moi l'espoir. Le vent m'a dit une chanson tendrement berça mon cœur. Il a glissé comme un frisson l'ardeur et le désir de mon plaisir. Bien comme un doux frisson d'amour. La mer grande sur les flots, le chant qui bientôt s'en va. Alors d'un rêve trop lâche, pour moi sonnera le glas. Le vent m'a dit une chanson qui tendrement berça mon cœur. Il a glissé comme un frisson l'ardeur et le désir de mon plaisir. Viens. Le vent m'a
Thank you.
Eh bien, vous êtes sur Radio Libertaire, c'est l'émission Chronique Hebdo, comme on l'a annoncé tout à l'heure. Et comme le Monde Libertaire l'annonce aujourd'hui, le Monde Libertaire que, bien entendu, vous avez entre les mains, puisque vous l'avez acheté à votre, chez votre kiosquier habituel, et si vous l'avez oublié, vous pouvez venir le chercher cet après-midi au 145 rue Amelot. Comme le Monde Libertaire l'annonce pour... puisqu'il annonce un certain nombre d'émissions de Radio Libertaire. Aujourd'hui, indépendamment de notre traditionnelle analyse de l'actualité, dont j'ai dit quelques mots avant cette émission, puisque je suis arrivé un peu plus tôt dans le studio, nous recevons notre invité, et Serge Tribolet, qui est psychiatre dans les hôpitaux de Paris, et philosophe, hein, puisqu'il me disait qu'il allait faire une thèse sur Plotin bientôt, penseur de l'Antiquité. Et il a écrit un bouquin, et c'est pour ça qu'il est là ce matin, qui s'intitule « L'abus de psy nuit à la santé ». Alors, ce n'est pas l'abus de boisson, ni l'abus de tabac, c'est l'abus de jeu, si on peut appeler ça un jeu, d'habitude psychologique. On a souvent parlé ici, très succinctement, notamment quand il y a, et malheureusement il y en a souvent, des accidents, des crimes, des drames collectifs. On a parlé souvent de ce qu'on considérait comme une espèce de charité très mal ordonnée qui consiste à instaurer des cellules de veille psychologique ou des cellules de réconfort psychologique. Donc on va essayer de voir avec Serge Tribolet ce que cache, ce que recouvre cet envahissement. Mais d'ailleurs, je crois qu'il n'est pas... Il a pris des proportions considérables, évidemment, au fur et à mesure que s'est développée une société où les individus ne comptent plus pour grand-chose, bien qu'on l'appelle individualiste. Mais c'est quand même quelque chose que, même il y a très longtemps, on évoquait en se moquant, notamment de la manie des États-Unis. D'ailleurs, il y a eu pas mal de films sur ce sujet-là. Je pense à un film de Woody Allen, notamment, où il évoquait... les psychologues, mais où la manie, en effet, de trouver dès qu'on est qu'on a un mal quelconque mental, ou qu'on est malade, ou qu'on se sent malade, ou qu'on se sent pas bien, d'aller payer des sommes souvent assez importantes chez des psychologues, ce qui fait qu'au fond cette manie états-unienne s'est développée ici. Et nous allons donc avec Serge Tribolet évoquer ce sujet qui passionne bien sûr tout, je l'espère, les auditeurs de Radio Liberté, mais en tout cas qui nous passionne, nous, parce que nous insistons souvent dans cette émission sur le décervelage que constitue non seulement la publicité, mais les émissions de radio ou les journaux qui ont un discours permanent, répétant les mêmes slogans, données pour marteler et faire en sorte que la pensée, dont on dira peut-être un mot tout à l'heure, qui nous est extérieure, soit formatée et soit finalement, quand on demande aux gens de s'exprimer, eh bien, ils ne doivent... C'est un peu comme les questionnaires statistiques ou les questionnaires, les enquêtes, dans lesquelles vous ne pouvez pas répondre à une autre question que celle qui vous a été posée. Donc, c'est bien cela que nous appelons le formatage, la répétition, l'impossibilité de s'exprimer complètement, ou en tout cas de se poser des questions qui n'ont pas été posées par les officiels de l'éducation, de la culture ou de la politique. Et je pense que c'est en effet un sujet qui est tout à fait important, puisqu'au fond, nos sociétés, et je pense... à la société française ou européenne en ce moment, c'est bien un sujet d'actualité, sont de plus en plus soumises à ce que nous, on a appelé peut-être un peu simpliste, d'une façon un peu simpliste, la propagande Achtafel, par référence à ce maître de S-propagande qui a été Goebbels à une époque. Et évidemment, cette propagande se distille aujourd'hui dans des conditions beaucoup moins brutales et beaucoup moins affirmées. Mais je crois qu'elle est peut-être encore plus dangereuse par le fait qu'elle est tout à fait insidieuse. Alors, je ne vais pas déflorer le sujet que nous abordons aujourd'hui. On pourrait peut-être dire quelques mots de l'actualité. Ce matin, j'avais parlé d'un article, enfin avant l'émission, j'avais parlé d'un article qui est paru dans Le Monde diplomatique du mois de novembre sur le fait qu'aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde, se développent ce qu'ils appellent des storytelling, c'est-à-dire des raconteurs d'histoires. Et il y a des consultants d'entreprises qui disent qu'au fond, il n'est pas important de dire des choses vraies, il n'est pas important de fonctionner par slogan idéologique, mais il faut simplement raconter des histoires. Alors je pense que dans le langage commun en France, quand on dit « ne nous raconte pas d'histoires », ça veut dire « ne nous raconte pas des mensonges ». Mais je pense que là aussi, il y a apparemment une technique utilisée aux États-Unis pour formater et pour centrer l'intérêt, notamment quand il y a des élections. Là, il parlait effectivement des élections qui viennent de se dérouler aux États-Unis, c'est tout à fait d'actualité. Quand il y a des élections, et bien, tous les concurrents disent qu'il ne faut surtout pas parler sérieusement, il faut simplement séduire les éventuels électeurs par des histoires. Voilà.
Jacques, alors, Serge Tribolet, je pense le mieux, on rappelle aux auditeurs ton ouvrage ce matin, donc c'est L'abus de psy nuit à la santé, ça a été publié au Cherche Midi, et pour commencer, simplement, je voudrais lire la quatrième de couverture. Et si la psychologie, tu nous dis, la psychanalyse et la psychiatrie étaient devenues, par un étrange retournement, les symptômes de notre société? Et si le scandale ne portait pas tellement sur l'usage exagéré des psychotropes, antidépresseurs, anxiolytiques, mais plutôt sur l'usage abusif de la psychiatrie elle-même? Alors, 12 000 psychiatres, 50 000 psychologues, sans compter les psychanalystes et les paramédicaux qui sont légion, une armée entière au service de tous, travaillant exclusivement, on va y venir, pour notre bonheur, et intervenant sans cesse dans les médias, évidemment, on verra ça, radio, télévision et l'ensemble de la presse, et puis tout un tas de revues, pour dire la norme et expliquer les règles d'une vie heureuse. Alors, on verra, on abordera certainement Huxley et puis Orwell, 1984. Voici, tu dis, le nouvel opium du peuple, l'arme d'abêtissement massif, le nouveau despotisme. Alors voilà, donc je pense...
Le nouveau quoi, tu as dit ?
Le nouveau despotisme. Donc c'est des mots relativement forts, mais tu as dit despotisme, nous on emploie quelquefois aussi une forme de totalitarisme, et on verra ce matin les comparaisons justement entre ces sociétés dites démocratiques et ces sociétés qui ont été totalitaires. Donc on fera évidemment ces comparaisons, puisque tu le fais toi-même, tu le signales dans ton ouvrage, à partir de l'opposition, tu cites Vladimir Bukovsky, à l'époque en URSS, une nouvelle maladie mentale. Alors puisque c'était en 1971, puisqu'on fait des analogies, et que ce matin, on avait parlé de propagande, Staffel, donc par rapport à l'époque, on verra ça aussi balayé de voir pour le nazisme. Mais en tout cas, l'ensemble des totalitarismes, est-ce que justement, ça veut pas dire la gravité, donc je reprendrai simplement le titre aussi, l'abus de psy nuit à la santé, on verra ça sur le tabac, on voit ça sur les paquets de tabac, c'est-à-dire le titre aussi, peut-être ses analogies, mais t'as pas mis l'abus de psy tue, puisqu'il y a ça pour le tabac. On dirait aussi, nous, on le dit souvent dans notre émission, le capitalisme tue. Hein. Voilà, on l'a vu, donc on voit les désastres actuellement. Et puis, Chronique Hebdo est une émission qui suit l'actualité, peut-être on dira un mot de ce qui s'est passé aux États-Unis, hein, quand même là où le Rumsfeld a sauté, quoi, le fusible a sauté, de voir après les conséquences, évidemment, ce que ça peut avoir sur l'ensemble de la planète. Donc, puisqu'on parle de totalitarisme, et puisque Jacques aussi, au début de cette émission, tu as évoqué un peu les États-Unis, où certains disent les États bénis, eh bien, voir l'ensemble de ces analogies, et la question que je te pose, dans ce bouquin, tu fais un constat, mais tu tires plus qu'une sonnette d'alarme, et justement, tu fais le lien entre la situation, c'est-à-dire on a trouvé pour l'ensemble de cette société des moyens pour les rendre heureux. Voilà. Enfin voilà, ça, on va continuer, si tu veux.
Merci d'abord parce que la présentation est très riche et il y a énormément de choses que j'ai notées au fur et à mesure. Alors ne serait-ce que si on reprend point par point, il y a vraiment de quoi aborder un grand change, j'allais même dire de la philosophie. Simplement, je voulais revenir sur le fait, dans la présentation, j'ai entendu que je suis philosophe. Alors, attention, je ne me suis jamais considéré comme un philosophe parce que, bon, déjà, Platon dit on n'est pas philosophe avant 50 ans, mais surtout, aujourd'hui, c'est un terme qui est très galvaudé. Un tel est philosophe, tout simplement parce qu'il a passé quelques diplômes. La philosophie, pour être philosophe, il faut avoir fait un système. Peut-être les derniers philosophes sont Heidegger, peut-être Husserl. Voilà. Après, il y a des enseignants de philosophie, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des penseurs. Là, je suis d'accord. Moi, je me considère plus comme un étudiant, un humble lecteur de la philosophie. Et c'est vrai que je prépare actuellement une thèse de philosophie sur l'œuvre de Plotin. Alors ça, c'est un point. J'ai entendu aussi dans le mot « la société de plus en plus individualiste ». Et c'est vrai, mais en même temps, attention à ce leurre qui donne un sens inverse quand on ajoute le mot « iste ». J'ai remarqué ça, par exemple, je pense que notre société s'éloigne de l'individu. Et elle est individualiste. C'est-à-dire, le mot individualiste ne signifie pas individu exactement. Il y a plein d'autres mots comme ça quand on rajoute un iste. Vous voyez, socialiste, ça n'a rien à voir avec le social. Voilà. C'en est même peut-être éloigné. Il suffit de regarder au quotidien. Voilà. Donc, faut se méfier de tous ces istes que l'on rajoute et qui, en fin de compte, viennent dire l'inverse de ce qui se passe. Donc, ça, c'est un point. Exactement comme les istes et les yens, d'ailleurs, je pense, on dit freudien, lacanien, je me souviens de cette phrase, on demandait à Lacan, qu'est-ce que c'était que pour lui d'être lacanien? Et il disait que lui, il n'en savait rien, lui, il était freudien. Bon, voilà, parce que être yens quelque chose, c'est déjà s'en éloigner. Et lui-même, oui, en disant retour à Freud, tout en étant freudien, c'était pas tout à fait l'œuvre de Freud. Donc,
oui,
voilà.
Et alors, nous qui sommes anarchistes et qui nous référons quelque
part. Oui, c'est pour
Proudhon,
ça.
Proudhon écrivait déjà, s'il existe des proudhoniens, ce sont des imbéciles.
Oui. Alors juste un point, quand on parlait de, tu parlais, t'évoquais la philosophie, alors on revenait peut-être au sens du mot, premier amour de la sagesse, oui, et puis aussi un cheminement, oui, cheminement philosophique ou une façon de voir le monde de façon philosophique, et pas forcément, on peut dire quelquefois, pour rigoler un peu, que le philosophe serait peut-être celui qui écrirait le moins dans la société actuellement.
Oui, c'était écrit dans le monde libertaire.
Oui,
philosophe.
Oui,
voilà. Oui, non, mais ça c'est pas. Bon, c'était un petit clin d'œil, c'est pas.
Voilà.
Mais c'est vrai que c'est Hegel, je crois, qui dit ces pages blanches sur lesquelles sont écrites la philosophie, c'est-à-dire Socrate n'a jamais écrit un mot. Oui. On retrouve ça aussi dans le domaine religieux. Certains grands noms. Non, Jésus-Christ n'a jamais écrit un mot et tout est basé sur sa parole. Bon, alors c'est la même chose pour la philosophie. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet parce que justement le fait d'écrire, de produire. Hein, Lacan, il avait un mot que je trouvais amusant, c'était les poubellications. Voilà, pour parler de toute cette écriture sur son œuvre, sur l'œuvre de Freud. Donc on publie et
oui,
tout ça. Les poubellications, c'est-à-dire ça produit du déchet, voilà, pour pas prononcer d'autres mots. Alors, j'entendais aussi dans la présentation, oui, l'abus de psy tue. Est-ce qu'on peut dire l'abus de psy tue ? Alors, je dis l'abus de psy nuit à la santé parce que l'abus de psy, ça a cette tendance à rendre bête. Voilà, ça c'est un, les gens deviennent passifs et on va peut-être en donner des exemples. Il y avait l'exemple de la voiture, mais enfin plein d'autres exemples où on devient des objets et on devient bête. Et donc, c'est cet abêtissement dans les deux sens du terme, c'est-à-dire devenir bête, stupide, mais aussi se rapprocher de la bête. De devenir de moins en moins humain.
Oui, c'est vrai. Oui. Mais et encore, quand tu dis se rapprocher de la bête, est-ce que la bête est quand même, j'allais dire, réagit mieux à l'environnement, à ce qui se passe autour d'elle, dans la mesure où elle a des instincts qui, eux, ne peuvent être difficilement anéanti comme peuvent l'être anéanti le cerveau raisonnable.
Exactement, oui, c'est tout à fait juste parce que quand je dis l'abêtissement se rapprocher de la bête, c'est en même temps, je dis qu'il y a chez l'humain quelque chose qui n'est pas réductible à l'animal, mais attention, ça ne veut pas dire pour autant que l'animal est un mode de vie inférieur, c'est-à-dire respect total envers la vie animale, mais la science actuelle, et puis la science de toute façon dans son sens le plus large, a cette tendance à considérer l'humain comme un animal perfectionné. C'est de l'animal avec du quantitatif. Or, au sens philosophique, et c'est comme ça que je l'entends moi, on ne peut pas réduire l'humain à l'animal. Exactement comme dans mon domaine et que j'évoque dans le livre, on ne peut pas réduire la folie à de la maladie mentale. Voilà. Et ça, c'est pour moi, c'est extrêmement
important. Je crois que, oui, ça, c'est, juste ça, je pense que c'est un point quand même à préciser, puisqu'on va le voir ce matin, citer un autre de tes ouvrages, la folie, tu as écrit un bienfait pour l'humanité. Alors donc, on voit ce que ça veut dire. Et justement, important, je pense, pour les auditeurs et pour beaucoup
mais
de gens.
Mais ça, c'est copier Erasme, alors, hein, de la folie.
Oui, de faire la différence est justement très important entre ça, la folie, et la maladie mentale. Et tu l'as évoqué, je pense d'insister, parce que il y a une confusion qui est entretenue par rapport à ça, et l'importance que tu fais avec cet ouvrage, je dis qu'il a été publié aux éditions de Santé Humanité, quand tu mets, tu me rappelles, Jacques, pour Éloge de la folie, en tout cas, un bienfait pour l'humanité, voir toutes ces différences-là, et justement, cette confusion de dire que des gens qui seraient considérés comme fous et pas comme des malades mentaux, eh bien, il faudrait justement les maîtriser et il faudrait aussi les soigner.
Bien sûr, on en voit tous les dégâts de cette affaire. Alors, Erasme, oui, mais c'est Socrate aussi. La folie, un bienfait pour l'humanité, c'est tiré d'une phrase de Socrate. Alors, bon, je l'ai modifié un petit peu, mais c'est ça le sens dans le Phèdre, lorsqu'il dit que les plus grands bienfaits viennent de la folie. Il parle de la pitié à ce moment-là, de l'oracle qui dit la parole divine. La parole divine au sens grec, c'est-à-dire elle a accès, par la folie, on a accès à ce qui échappe à tous. C'est-à-dire, c'est la fameuse...
Que ça ne se confond pas avec l'imaginaire et la créativité de l'imagination.
Il y a des liens, mais ça ne se confond pas parce que c'est la capacité de divination que Socrate dit dans la folie. Mais la divination, pas au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire de voir l'avenir comme ça. La divination, c'est voir le passé, le présent et l'avenir, ce qui échappe au commun. Et on l'avait dans la folie, c'est-à-dire la folie à l'époque pour les Grecs. Et encore, Socrate dit, quand il dit ça, il dit les anciens considéraient, c'est-à-dire déjà même au temps de Socrate, c'était presque terminé, la science était déjà bien dans sa marche. Eh bien, pour Socrate, et donc à cette époque, la folie était un plus. C'était une capacité supérieure. Oui, aujourd'hui, la folie, c'est une case en moins. On dit qu'il a une case en moins.
Mais moi, je me rappelle, enfin, sans avoir fait d'études approfondies sur la philosophie grecque, je me rappelle que les Grecs considéraient la démesure, ce qu'ils appelaient l'hubris, comme tout à fait négatif. Et donc, est-ce qu'il y a un rapport, ou est-ce que dans la folie, enfin, au sens que tu l'indiques, on peut aussi y intégrer la démesure.
Mais c'est tout à fait juste, la folie, la déraison au sens... déjà, il y a beaucoup de mots pour dire la folie. Ça, c'est une chose, la déraison, la folie. Comme il y a en grec, il y a beaucoup de mots pour dire la pensée. C'est une chose sur laquelle on peut réfléchir déjà, puisque nous, aujourd'hui, il y a deux, trois mots pour dire la pensée. On a déjà réduit ce domaine-là. Bon, et... pour la déraison, la façon qui était critiquée par aussi bien Aristote, que tant d'autres, ne faisait pas forcément référence à cette folie-là, cet accès à un savoir extérieur. Cette fameuse déraison, c'est celle des gens normaux, je dirais, celle qui est critiquée par les Grecs. De dépasser les limites, il suffit de sortir dans la rue, il suffit de prendre le métro, il suffit d'écouter les politiques chaque jour, et on la voit, cette hubris, cette déraison-là. C'est pas celle dont on parle qui se joue dans la folie, justement. La folie, je le dis, c'est une porte ouverte sur un savoir extérieur, extérieur à la science, extérieur à notre perception. Et ce savoir-là, cette porte-là, c'est deux autres domaines sont des franchissements. Il y a la folie, la foi et l'art. Et pour moi, ce sont trois portes sur quelque chose d'autre. Alors, je dis la foi et pas la religion. C'est-à-dire, dans mon livre sur l'abus de psy,
oui.
je dis que la foi et la religion sont opposées, mais opposées en même temps comme un recto verso sur une même page, c'est-à-dire opposées et difficilement quand même détachables. Mais c'est pas du tout la même chose. La foi fait référence à un savoir qui ne peut pas être atteint justement par le dogme. Or, c'est par le dogme qu'on dit des choses sur cette foi. Donc, c'est très, très difficile comme sujet. Enfin, c'est toute la théologie repose là-dessus. Cette impossibilité, ce mur infranchissable, qu'on pourrait dire, qualifié en termes un peu pédants, de mur épistémologique. C'est-à-dire, il y a un endroit où on ne peut plus atteindre. Et ce qu'on sait de ce qui se passe de l'autre côté, on ne peut rien en dire.
Oui, mais alors, moi, c'est pour ça que je reviens sur l'idée qu'on développe quelquefois ici, que dans l'imaginaire, dans l'inconscient, il y a toutes les ouvertures vers ce que tu dis, c'est-à-dire les hypothèses scientifiques, tout ce qui est de l'inconnu, tout ce qui relève de l'inconnu, et tout ce que, en ce qui concerne les humains, il n'est pas question de dire que on est certain de connaître un jour ce qu'on ne connaît pas, mais en même temps, il est toujours nécessaire d'entreprendre cette recherche permanente et finalement ce souci de créativité de l'individu pour ramener cet inconnu, c'est incommensurable, c'est infini, c'est inattendu, pour le ramener, j'allais dire, aux pieds sur terre, pour le ramener à la raison. Et c'est pour ça que quelquefois, ici, on parle, puisque tu évoques l'abus de psy nuit à la santé, oui. nous, on disait, pour évoquer le slogan « boire ou conduire, il faut choisir », nous disions « croire ou penser, oui. il faut choisir oui. ». C'est-à-dire, au fond, quand tu parles de la foi qui n'a pas de rapport avec la religion, il ne faut pas qu'elle soit cette foi dont tu parles, si c'est simplement un arrêt sur image, si c'est simplement un arrêt sur quelque chose qui vous dépasse, alors là, on n'est pas du tout d'accord. Hein. C'est-à-dire ça ne peut être que dans le mouvement, c'est-à-dire dans ce mouvement qui est très bien le mouvement scientifique, le mouvement artistique aussi, la créativité de l'art, et puis aussi... pourquoi ne pas chercher un petit peu ce qu'on ne s'explique pas, mais sans qu'on puisse dire, comme je ne peux pas me l'expliquer, je me réfugie dans la non-connaissance et la non-recherche, et donc je suis amené éventuellement à accepter ce que d'autres, et qui vont utiliser en effet le sacré pour leur propre intérêt, parce que tous les prêtres, tous ceux dont tu disais qu'ils ont écrit le plus souvent alors que Jésus-Christ n'a jamais parlé et que bien d'autres n'ont jamais parlé, ça a toujours été quand même dans un objectif très concret et positif de pouvoir.
Oui, bien sûr. Alors attention, croire ou penser, il faut choisir. J'aime beaucoup ce slogan, mais croire, c'est pas contradictoire avec penser. Croire, c'est pas une façon de se réfugier dans une ignorance. C'est pas du tout ça. C'est un peu comme d'une certaine façon la découverte de l'inconscient par Freud. Il y a un savoir là qui ne se sait pas. mais c'est un savoir et on peut avoir accès à ce savoir, c'est toute la technique freudienne, autrement que par la pédagogie, autrement que par une pensée rationnelle. Ce serait, parce que croire ou penser, on pourrait l'entendre, croire ou rationaliser, il faut choisir. La pensée, c'est pas uniquement rationaliser.
Non, c'est, comme je le disais, c'est plus la croyance, c'est un arrêt.
Oui.
Et la pensée, c'est un mouvement.
Oui, oui, oui.
C'est plus sous cet angle-là qu'on, oui, imagine, oui. Qu'on développe formule simpliste.
Voilà, je l'entends bien. Moi, sauf que le croire, moi, je l'entends pas comme un arrêt dans le sens où je
l'utilise. Oui, voilà.
Voilà, parce que
sur l'imaginaire,
oui,
ou sur une ouverture.
Croire, ça veut dire ne pas savoir. Voilà. C'est alors d'une certaine façon, c'est croire, c'est on ne sait pas. Hein. Celui qui croit en Dieu, je suis pas sûr. Voilà. Donc, il est dans le doute. Or, il y a rien qui fait plus avancer. Il y a le mouvement, c'est le doute justement. D'une certaine façon, c'est bien cette croyance qui fait quelque part que ça marche, l'humanité. Si le savoir fige, le savoir de la science, une fois qu'on sait, on passe à autre chose, on passe de fixation en fixation. C'est un peu dans ce sens-là où ce sont des
termes... Oui, mais ça, c'est intéressant de le préciser, puisque le sens habituel, par rapport justement à cette croyance ou à cette foi, c'est justement de s'arrêter à des dogmes et de figer la pensée et de l'interdire d'aller au-delà. Donc voilà. C'est pour ça que c'est important de préciser, parce que chacun peut l'entendre autrement.
Voilà.
Donc là, on est piégé un petit peu par les mots.
Exactement.
Et donc, il faut essayer les expliquer.
Effectivement, c'est bien tout ce qui peut faire la richesse de l'imaginaire, de la créativité, de la recherche, etc. Mais le non-savoir, ça peut être aussi la résignation.
C'est le risque, ouais, bien sûr, c'est le risque.
Alors la résignation, ça veut dire, c'est un petit peu la doctrine de toutes les religions. Hein. Vous n'êtes que poussière sur cette terre. D'ailleurs, je ne sais pas si la traduction était bonne, mais pour revenir à Proudhon, il disait « Islam, ça veut dire résignez-vous ».
Oui, oui.
Islam, résignez-vous.
Oui. Oui, mais en même temps, voilà, enfin, je ne veux pas rentrer dans un
non,
débat,
alors, voilà.
mais l'Apocalypse, oui. C'est la révélation aussi, c'est-à-dire c'est la révélation d'une vérité extérieure à nous. Voilà, donc on pourrait aussi dire, après moi l'islam je ne connais pas, enfin ce que j'en connais de l'islam, c'est ce que Beaumarchais d'une certaine façon dit dans Le mariage de Figaro, je l'avais amené parce qu'il y a trois lignes qui sont d'une actualité fabuleuse avec ce fameux professeur de philosophie qui est censuré, et j'encourage tout le monde.
Ah, vas-y, tu nous les lis.
Bon,
alors
j'encourage tout le monde à voir le fameux acte 5, scène 3,
oui.
Qui est le plus connu d'ailleurs, qui est scolaire, hein, celui qui commence par ô femme, créature faible et décevante, bon, etc. Mais c'est dans ce passage-là aussi, juste avant de venir à ces trois lignes qui sont d'actualité, parce que vous êtes un grand seigneur, vous croyez un grand génie, noblesse, fortune, un rang des places, tout cela rend si fier. Il est assis sur le banc quand il dit ça. Qu'avez-vous fait pourtant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire, tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science, etc. Bon, c'est un acte très connu et très fort. Mais voilà ce qu'il dit à un moment. Il dit, bon, je suis parti du côté de la pharmacie, la chirurgie, j'ai essayé de faire du vétérinaire, mais j'ai abandonné tout ça pour faire autre chose qui est le théâtre. Je me jette à corps perdu dans le théâtre, me fussé-je mis une pierre au cou. Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. Auteur espagnol, je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule. À l'instant même, non, je rajoute même, en fait c'est à l'instant, un envoyé de je ne sais où se plaint que j'offense dans mes vers la sublime porte. La Perse, une partie de la presqu'île de l'Inde, toute l'Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, de Tunis, d'Alger et du Maroc. Et voilà ma comédie flambée pour plaire au prince mahométan dont pas un, je crois, ne sait lire et qui nous meurtrisse l'omoplate en nous disant « chien de chrétien ». Bon, etc. Ça, c'est dans Le mariage de Figaro, acte 5, scène 3. Ça fait réfléchir quand même sur l'actualité. Et je cite encore cet acte 5 dans mon livre, justement, entre autres, je le mets en exergue d'un chapitre. puisque il dit à un moment, un peu plus loin dans cet acte, il réfléchit, il dit « si j'avais un de ces puissants de 4 jours, enfin, un de ces hommes politiques qui reste là 6 mois, 1 an et qui disparaît, bon, je lui dirais que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où on en gêne le cours, que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, et... » Et c'est ça qu'il faut jamais oublier, parce qu'avec le journal Figaro, on retient ça. Et la phrase d'après est qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Pour moi, cette phrase, elle est fondamentale. Voilà. Et pour montrer l'actualité, cette question de religion. Alors voilà, c'est vrai que de l'islam, je vais pas m'amuser à en parler. Je ne connais pas, mais. En tout cas, c'est certain que le dogme, quelle que soit la religion, et en particulier les religions monothéistes, les dogmes sont des enfermements par définition. Mais la foi, je la vois pas comme un enfermement. Je la vois au contraire comme une élévation. Enfin, attention bien ce qu'on entend dans le mot foi, de croire qu'il y a autre chose en nous qui est extérieur à nous. C'est un peu comme ça que je l'entends, moi, avec ma thèse sur Plotin.
Oui, tu l'entends comme ça, mais la plupart du temps, c'est quand même entendu comme une vérité
sur laquelle il n'y a pas
à revenir.
Alors là, on est d'accord que là, on ne parle plus du mot foi.
Alors voilà,
on verra
ce matin, donc on continuera peut-être sur ce thème, et on parlera peut-être de l'imaginaire, d'un ouvrage qui a été publié chez Gallimard, à la collection L'Imaginaire unique à Zurn, sur l'homme jasmin. Peut-être on en dira quelques mots tout à l'heure. Avant de passer une partie musicale, peut-être revenir sur ça, sur ce qu'on avait essayé de au début à évoquer, beaucoup de choses peut-être dans la présentation, il y a beaucoup de choses à dire évidemment, sur le fait de l'abus de psy et pourquoi on psychiatrise ces sociétés. Alors on pourrait dire les sociétés modernes rendent l'homme malade. Peut-être de voir évidemment et que finalement on retourne et on le voit bien pour l'école, pour les enfants qui seraient un petit peu turbulents, comment on va s'y prendre pour déjà aux États-Unis on leur donne quelques médicaments, dans les conditions même du travail, évidemment énormément de gens malades, on leur dit comment résoudre le problème, là aussi sans aborder le thème de la dépression, puisque on dirait il suffit de vous donner quelques médicaments pour vous remettre d'aplomb. Le problème, tu l'évoques aussi, alors après tu parles du couple, de la famille, tous ces symptômes, et que une certaine manière l'organisation sociale, l'organisation de nos sociétés ferait que ça rendrait les gens malades, et que pour essayer de remettre ça, remettre un peu cette société d'aplomb, eh bien on fera appel à un contrôle social ou un contrôle médical, et on enverrait donc, comme tu le dis, une armée de bataillons, de psychanalystes, de paramédicaux, de psychiatres, de psychologues, et évidemment, on a évoqué au tout début de cette émission, dans tous les médias, sans parler d'une revue comme Psychologie, tout ça, dans tous les médias de dire, eh bien, trouvez vous-même les moyens, alors si par d'autres techniques, si c'est pas les médicaments, d'aller bien. Parce que finalement, on l'a dit au début de cette émission, l'illusion, c'est la démocratie, c'est le meilleur des systèmes, c'est vous êtes dans une société formidable, et donc si vous avez des problèmes avec cette société, ça vient de vous-même, et donc il y a un moyen pour que si vous n'allez pas bien, c'est d'avoir recours au médecin. Voilà, je voulais te dire là-dessus d'insister parce que c'est important.
C'est bien la question de l'organisation sociale. Là, c'est vraiment le terme important. Il y a une véritable tout ça participe d'une grande organisation sociale et militaire. D'ailleurs, c'est très à la mode aujourd'hui les militants avec les partis, ils sont tous là, mais qui défendent des idéologies. Et je mets en garde aussi contre un certain nombre d'idéologies. De toute façon, quand on regarde l'histoire de l'humanité, les plus grands malheurs sont souvent liés aux idéologies. La religion étant elle-même une idéologie, ça on est bien d'accord sur ce point. Et l'idéologie, on pourrait dire, mais un idéologue c'est fabuleux, il défend une idée. Non, un idéologue. Une idéologie, c'est pas une défense d'une idée, c'est empêcher effectivement toute idée autre que celle-là. C'est, on peut pas discuter avec un idéologue en général, hein, essayer. Bon, donc il faut quand même une distance. Et dans cette organisation sociale, il y a un système de surveillance qui est très très bien fait. Et le couple est aujourd'hui, que ce soit le PAX, justement le PAX est aussi fait dans cette, dans ce sens-là, c'est-à-dire de mettre du couple officiellement et de façon surveillée là où il n'y en avait pas. Bon, mais le couple, le téléspectateur, le conducteur, et on pourrait continuer la liste, sont des éléments justement où on est enfermé, où l'individu est enfermé et disparaît d'ailleurs, afin d'être un objet de surveillance, un objet manipulable. Un couple, c'est manipulable, beaucoup plus que quelqu'un qui vit seul, célibataire. C'est toujours peu... vous avez 50 ans, vous dites vous êtes célibataire, on vous regarde, vous êtes presque passé pour terroriste, presque. Vous voyez, c'est pas tout à fait... acceptable, parce que ça peut échapper à la surveillance. Le couple, il peut pas échapper à la surveillance. Puis alors, avec les enfants, encore moins. Mmh. Bon, le téléspectateur, il échappe pas du tout à la surveillance. On vous dit chaque jour qui a regardé quoi, on vous dit ce que vous avez regardé. Bon, moi, je m'en sors pas mal, j'ai pas la télé, mais j'entends quand même ce que j'ai regardé le lendemain dans les radios et autres.
Oui, je me rappelle que, pour revenir sur ce que tu dis, que moi, quand la télé est née, moi, j'avais des jeunes enfants et on avait décidé avec ma femme de ne pas acheter la télé. Mmh. Et ben qu'est-ce que faisaient les enfants qui avaient 7-8 ans? Ils allaient chez le voisin regarder la télé. Donc c'est vrai que là, il y a vraiment une bataille extraordinaire à faire, hein, pour arriver à dominer tout ce qui est l'environnement.
Alors ça, c'est les conditions sociales, en fait, essaie de citer tout ça, qui conduisent finalement après à ne pas être bien. Et alors, donc, on dit l'orientation, vous devriez être au contraire parfaitement bien, puisque on vous propose que du bonheur, sans parler évidemment de la publicité, hein, tout le langage publicitaire. Donc cette illusion constante dans laquelle on est, et on voit bien entre ce que les gens reçoivent et ce dérèglement par rapport à eux, ce malaise, et comment justement régler cette situation, ces questions, par le fait d'aller chez les... Tu dis psy, parce que psy, c'est aussi, tu l'évoques, le fait que ce soit un mot familier. On le rapproche, on le rend plus sympathique, hein, c'est le langage publicitaire habituel. C'est sympathique, et puis je vais voir mon psy. Enfin, on sait très bien par rapport à ça, tout ce qui est venu des États-Unis, par rapport à tout un tas de séries, de bouquins, de films et tout ça, par rapport qui devrait... Enfin, c'est les nouveaux curés, je ne sais pas, parce qu'il y a aussi, cet aspect-là, on pourrait peut-être en parler, mais de voir que, on disait au début de cette émission, sommes-nous, alors nous on pense, on a déjà donné plusieurs fois la réponse par rapport à ça, ces sociétés prétendues démocratiques, hein, encore une fois, ne sont-elles pas des sociétés totalitaires beaucoup plus graves? Parce que les sociétés totalitaires, on l'a évoqué au début, quand on parlait de stalinisme, on parlait de l'URSS, ou on parlait du fascisme, ou on parlait de ce qui s'est passé en Italie, enfin, tous les systèmes totalitaires qui sont mis en place, ils ont été identifiés, et tout un tas de gens se sont bagarrés contre eux, mais l'impression que l'on a, c'est que dans ces systèmes dans lesquels on est, c'est pour ça qu'on évoquait tout à l'heure Orwell 1984, ça deviendrait invisible. Ça serait non visible, et donc le fait que, comme ça serait invisible et que l'on vendrait le système politique comme le meilleur des mondes, hein, pour reprendre Huxley, eh bien, si vous n'êtes pas bien dans ce meilleur des mondes, eh bien, c'est donc que ça vient de vous-même, et donc c'est parce que vous êtes malade. Et si vous êtes malade, eh bien, il y a un médecin ou des médecins ou des paramédicaux, comme tu disais, pour ça. Voilà.
Oui, c'est là, on voit bien que la science-fiction là n'est plus une fiction.
Oui,
n'est plus une fiction. Aldous Huxley, c'est prophétique. D'ailleurs, tous ces textes sont magnifiques. Aldous Huxley, je pense à des textes du 19e siècle qui sont prophétiques sur des personnages comme Chateaubriand. Lisez les conclusions des Mémoires d'Outre-Tombe, ça fait froid dans le dos. C'est plus prophétique, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais alors, c'est tout à fait ça. Alors, quand on nous propose du bonheur, en fait, c'est le mot est, faut se méfier du mot. C'est pas tellement le bonheur, on nous propose de mieux fonctionner. C'est surtout ça, c'est-à-dire on est tous dans une grande fonction publique, le privé, la fonction publique, tout ça, ça ne veut plus rien dire. C'est le fonctionnement de la société. et on est tous là-dedans. Et quand on entend le mot bonheur, c'est quand on vous propose le bonheur, c'est plutôt d'être à la bonne heure, à l'heure exacte de tous. C'est ça le problème.
Oui, faire sur les mots, exactement l'importance des mots, le double sens. Oui.
L'horaire libre, ça m'a toujours sidéré de voir qu'on installe des systèmes de pointage, de contrôle.
Ah ben qui est vendu. Voilà.
En plus, c'est eux qui tiennent la chaîne qui les lit, puisque c'est eux qui ont le badge pour pointer l'heure d'arrivée et l'heure de départ. Et on appelle ça l'horaire libre.
Ben c'est le retournement des mots. Hein. On vend la liberté partout et on la retourne. On voit évidemment cette prison. Donc là aussi, une société prison. Et pour les prisonniers, qu'est-ce qu'on l'on fait pour les prisonniers? Ben, on les bourre. Là, je pense, c'est intéressant quand même de médicaments. Hein. Les gens aussi qui sont dans leur prison sociale, intérieure, travaillent. Ou là, tu disais tout à l'heure, la famille ou le couple tel qu'il est défini, le couple moderne, médicaments, ou alors essayer d'avoir à une rencontre avec quelqu'un qui résoudra leurs problèmes.
Oui, oui. Les techniques aujourd'hui en psy, les techniques cognitives, comportementales, ont le rôle des médicaments. C'est-à-dire, on donne des techniques ou on donne un produit, c'est la même chose. Et ou donner la bonne parole. En librairie, c'est assez étonnant de voir les rayons psychologie. Là, ça croule sous le poids de chercher le bonheur. Et donc, c'est tout ça, c'est de la psychologie. D'ailleurs, très à la mode, hein, parce que si on veut faire un livre qui marche bien, qui se vend bien, il faut faire ça en un week-end. On fait un bouquin comme ça, Le bonheur pour tous, et ça se vend. Alors, il y a une imposture intellectuelle. Et très juste, le mot psych est un diminutif. Il faut se méfier de tous les diminutifs. C'est fait un peu pour nous amadouer. Et alors, j'entendais les nouveaux curés. Oui, parce que c'est, de toute façon, c'est la même chose. Curé, la cure psychologique, c'est bien là, une question de soins. Mais le problème, c'est que tout ça, effectivement, c'est la société totalitaire qui est au bout du compte. Je retrouvais la phrase de Bukowski, c'est une des citations, c'est « Si l'utilisation abusive de la psychiatrie a commencé dans votre pays, il est déjà trop tard. Vous commenceriez par vous battre, mais il est probable que vous seriez tenu pour fou et enfermé. » Bon, dans la bouche de Bukowski, ça fait quand même peur. Et on n'est pas très loin de ça, d'une certaine façon. Alors, on est enfermé aujourd'hui pas tellement dans les hôpitaux psychiatriques, on est enfermé dans un discours dont on ne peut pas sortir, qui est le discours de la science d'une certaine façon. Alors la science, je dis de faire attention, prendre des précautions dans le livre. Oui. Quand je critique la science, je ne veux pas qu'on m'accuse d'obscurantiste.
Mais c'est pour ça sans conscience. Science sans conscience, que vous dites, ruine de l'âme.
Voilà, cette science-là, effectivement. Parce que l'idéal de la science, c'est l'idéal de l'exclusion du sujet en termes psychanalytiques, mais ici, on peut dire de l'exclusion de l'individu. Pour que la science fonctionne, justement, il faut mettre l'individu de côté et même mieux le supprimer. Regardez un laboratoire médical, pour qu'une une expérimentation soit considérée validée, tous ces termes sont assez aussi.
Il faut que l'homme soit invalide.
Et oui, exactement, c'est exactement ça. Il faut que la participation humaine disparaisse. Et notre société participe de ça. La créativité aujourd'hui n'est plus très permise, et quand elle est permise, elle est encadrée, elle est entourée, il faut que ça rentre dans des systèmes.
Il faut un budget, il faut un financement d'une entreprise privée, et là vous avez le droit d'exercer votre fonction de chercheur.
Oui, il faut des permissions, il faut des concessions, et tout ça, le couple, et c'est pour ça que je fais tout un chapitre sur le couple, ce qui se passe au niveau du couple, c'est ce qui se passe au niveau de la société. C'est assez révélateur. Alors j'étudie le couple comme un chercheur va étudier une cellule, et le couple, c'est le lieu des concessions. Quand on va voir un concessionnaire, c'est un vendeur de voitures. Bon, mais ce qu'il y a de malheureux, c'est qu'il y a une obligation dans cette unité sociale qu'est le couple de passer par ça. Alors, je dis, tout couple repose sur le marchandage. J'en viens sur des phrases qui peuvent être mystérieuses chez Baudelaire et autres, mais je cite Nietzsche aussi, qui n'a pas l'air de bien apprécier les couples, parce que pour lui, il dit c'est l'anéantissement, j'ai plus le terme en tête, mais c'est l'anéantissement de la pensée. Et il dit, est-ce que vous imaginez une seule seconde Kant, Descartes, Schopenhauer, il fait une liste longue, et puis on rajoute Nietzsche, vous les imaginez une seule seconde mariés? Et il dit, ça peut même pas arriver à notre esprit, tellement que ça paraît Voilà. Mais alors, il dit là... Socrate, par contre. Oui. Socrate était marié.
Oui, oui, oui.
Mais lui, c'était par ironie. Enfin bon, faut lire Nietzsche après. Oui, oui.
Mais simplement, là, puisque c'est des hommes, hein, comme je voulais quand même rappeler, il y a eu des femmes au début du siècle, une femme qui s'appelait Voltairine de Clare, et qui a écrit un très beau texte, c'était au début du XXe siècle, je crois que c'était vers 1907, qui s'appelait « Le mariage est une mauvaise action ». Donc voilà, c'était quelque chose de... Et puis évidemment, rappeler que tous les textes, hein, qui est par rapport aux libertaires, et en particulier la pensée anarchiste, qui a attaqué violemment, hein, on va peut-être moins Proudhon, peut-être Jacques, mais attaquer violemment la famille,
Proudhon, il avait
la famille hein, comme relais de l'État.
Il était un peu misogyne. Mmh. On lui a reproché ça d'ailleurs. Hein, il a eu des échanges de lettres avec des femmes et il considérait que dans l'équilibre social en général, l'autorité et la liberté, pour lui. Le foyer, le couple, c'était l'autorité. Et donc, comme dans la mesure où il doit toujours y avoir un équilibre entre liberté et autorité, il considérait qu'effectivement, la famille et la femme devaient accepter l'autorité maritale, l'autorité du chef de famille. Et donc, cela voulait dire que l'organisation sociale devait être fondée, elle, sur la prééminence de la liberté. C'est-à-dire, au fond, dans la mesure où on peut pas, il n'imaginait pas une société dans laquelle il n'y ait aucune autorité. Donc, il essaie cette partie, d'une certaine façon, négative de la vie sociale. Au foyer et au couple. Alors, ceci étant, effectivement, il considérait que à partir du moment où il y avait mariage, où il y avait couple, et lui qui était très sensible à l'amitié, hein, il a fait un texte presque poétique sur l'éloge de l'amitié, il disait qu'il n'y avait plus d'amitié possible à partir du moment où il y avait un
voilà,
couple,
oui,
il y avait
oui,
une
oui.
femme qui intervenait alors, en quelque sorte dans la relation.
Alors Serge Tribelet, peut-être qu'on va faire une petite partie, on va passer une chanson, un peu une partie musicale, pour permettre aux auditeurs, justement, puisque l'émission est en direct, de réagir, parce qu'il y a eu des tentatives beaucoup là au
oui,
cours de cette émission.
Ils sont sur leur divan, comme nous d'ailleurs, sur leur divan de Radio Liberté.
De nous appeler, donc le numéro du studio 01 43 71 89 40, on rappelle que c'est l'émission Chronique Hebdo sur Radio Libertaire, c'est le 89.4, vous le savez, pour l'ensemble de l'Île-de-France. Et puis aussi, vous pouvez nous écouter sur Internet, hein, la possibilité soit d'écouter l'émission, de la réécouter. Voilà, alors on se retrouve tout de suite après ces parties musicales, et puis on reviendra certainement sur cet aspect politique, puisqu'on a évoqué, mais rapidement, on peut-être aller un petit peu plus loin sur cette forme de totalitarisme qui est dans cette société, et puis ce recours, évidemment, au psy, puisque Serge Tribelet, donc c'est pour ton bouquin « L'abus de psy nuit à la santé », que je rappelle, qui vient d'être publié au Cherche Midi. Voilà, à tout de suite.
Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. Elle sait bien dire papa, maman. Quant à son frère, il peut prédire pour demain la pluie ou bien le beau temps. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, c'est jour de fête. Grâce au petit clown qui nous fait rire. Même Alexa, cette pauvrette, oublie qu'elle a toujours pleuré. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Elles vous diront que je suis leur ami, que je suis leur ami, que je suis leur ami.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire dans l'émission Chronique Hebdo consacrée essentiellement aujourd'hui à un commentaire d'un bouquin qui a été écrit par notre invité Serge Triboulet et qui s'intitule, ce bouquin, « L'abus de psy nuit à la santé », édition du Cherche Midi. Alors, on a eu un certain nombre de questions d'auditeurs et d'auditrices qui, notamment, enfin, en ce qui concerne celle à laquelle j'ai répondu, parlait de la citation que tout à l'heure, Serge, tu as fait du bouquin de Beaumarchais dans lequel les musulmans sont maltraités sur le plan culturel. Et cette auditrice me disait que autant Charlemagne ne savait, paraît-il, ni lire ni écrire, autant la civilisation arabo-islamique du sud de l'Espagne a été d'une richesse culturelle extraordinaire, ce que, effectivement, nous ne pouvons pas contester.
Bien entendu, il ne s'agissait pas du tout de critiquer, c'est simplement faire le lien entre la phrase de Beaumarchais dans Le Mariage de Figaro et un événement d'actualité. Voilà, ça ne va pas plus loin.
Oui, Jacques, alors...
toi aussi, tu as eu des coups de
voilà.
téléphone.
Donc, on a eu beaucoup d'appels ce matin. Donc, une auditrice, alors, évoque la folie ordinaire. Hein. Alors, sans revenir, évidemment, sur les contes de la folie ordinaire de Bukowski, elle nous parle que, pour elle, les pratiquants, les malfaisants, je dirais, du CAC 40, hein, contiennent une sorte de folie ordinaire, et c'est ce qu'elle voulait dire. Sont-ils beaucoup plus dangereux, ceux-là, que simplement celui qui se mettrait, je relate ses propos, une casserole sur la tête et qui sortirait dans la rue, tu vois, pour un peu une forme de caricature, je dirais, il est un petit peu dérangé, mais et que cette folie, puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'éloge de la folie, donc revenir sur ce terme, quand elle parle de folie ordinaire, est-ce que justement ce monde de fous, on parle souvent de ce monde de fous, qu'est-ce qu'on peut penser, comme on l'a évoqué, ceux qui nous gouvernent, ceux qui gouvernent ce monde, qui le conduisent peut-être à la destruction, puisqu'elle évoquait tout à l'heure les spéculateurs, les boursicoteurs, est-ce que pour eux, ils ne sont pas justement emprunts à une folie ordinaire? Voilà, sa question, hein.
Oui, c'est le mot folie, on peut le mettre à la sauce de beaucoup de choses. Il y a la déraison, il y a, vous savez, je pense à ce fameux débat Foucault-Derrida au XXe siècle, où Foucault, dans l'histoire de la folie à l'âge classique, dit d'une certaine façon que lorsque Descartes élabore et écrit le cogito, aujourd'hui appelé le cogito cartésien, le je pense donc je suis, eh bien Foucault dit là la folie n'est pas concernée, la folie est exclue du cogito. Et Derrida reprend le texte de Foucault et écrit un texte très important où il montre point par point que Foucault se trompe, et Derrida dit Foucault ne sait pas lire Descartes. Bon, et puis 10 ans après, Foucault fait un texte énorme et vraiment admirable, où il reprend point par point les termes de Derrida pour montrer que Derrida ne sait pas lire Foucault et ne sait pas lire Descartes. Mmh. Et donc, que d'une certaine façon, c'est ce que je pense aussi, c'est que la folie est exclue du cogito. Tout ça pour dire quoi? C'est que les termes sont en latin et il y a plusieurs mots pour dire la folie. Il y a la démence, qui n'a pas le sens d'aujourd'hui, et puis d'autres mots là que j'ai pas en tête, mais enfin, et tout ça est très très précis. Bon, aujourd'hui, le même mot folie désigne plein de choses. Oui. Alors, quand je parle de la folie, moi je parle de l'individu, et donc moi à l'hôpital, j'ai affaire à des individus qui traversent des expériences délirantes, comme Unica Zurn, on va en parler sans doute, et tant d'autres. Ce qui n'a rien à voir avec la question de l'intelligence ou de toute autre chose.
Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que moi je pensais à l'expression « je t'aime un peu beaucoup passionnément » à la folie.
Bien sûr.
Ça veut dire excessivement.
À la démesure, à la démesure, voilà.
Avec excès.
Oui, oui. Et l'amour, de toute façon, est toujours dans la démesure. Sinon, c'est pas de l'amour. Et sinon, c'est de la vie de couple. C'est-à-dire, c'est de l'affect. Quand je critique les couples, je dis aucun couple ne repose sur de l'amour. Ça repose sur de l'affect. Faut bien qu'on s'entende. Moi, j'ai vu des gens qui étaient dans des histoires d'amour. On les retrouve à l'hôpital psychiatrique assez vite, hein, parce que c'est une certaine certaine démesure invivable. Bon, mais un couple qui doit tenir et qui veut tenir, si je prononce le terme, eh bien, ça repose sur l'affect et donc de la psychologie, et donc c'est un couple manipulable et manipulé. Mais pour en revenir à la question de la folie de toutes ces fortunes mondiales et autres, c'est une folie collective qui a un autre mot. Moi, j'aimais ça, c'est l'idéologie. Une fois de plus, on est dans une idéologie. Toute l'histoire du monde est en fin de compte une histoire de la folie. Histoire de la folie, les gens s'entretuent sur la folie religieuse, ils s'entretuent ou ils se mangent les uns les autres sur cette folie économique, et tout ça est dans un même mouvement, qui est le grand mouvement de la science. Alors, le mot science est sans doute mal entendu souvent parce que je l'entends au sens philosophique du terme, c'est-à-dire on devrait plutôt dire de la technique, voilà, la technique. Plus la technique avance et plus l'homme recule. Et donc la technique, elle empiète sur l'homme. Et l'économie, c'est la technique. Alors un couple, revenons au couple, puisque quand je dis que l'examen du couple, c'est l'examen de la société. Un couple, ça repose sur des relations économiques, déjà au niveau de deux personnes. C'est un échange. Alors certains disent, oui, mais on échange des sentiments, voilà, dans un couple. Ben, tout échange, c'est du commerce d'une certaine façon. L'amour a rien à faire avec un échange. On n'échange rien dans l'amour. Donc il y a cette folie collective-là, qui repose sur une idéologie, des idéologies, et puis la folie de l'individuel, justement, elle est hors idéologie. Elle nous dit cette folie qu'il faut entendre, justement, qu'il ne faut pas simplement écouter, parce que la psychologie, elle écoute les délires. Donc la conclusion, c'est, eh ben, il délire, il dit n'importe quoi. Non, si on entend, on s'aperçoit que, justement, dans un délire, c'est pas n'importe quoi qui est dit. Et ce qui est dit, justement, c'est hors idéologie. Ça ne colle à aucun système.
Alors justement, puisqu'on évoquait tout à l'heure une forme, on parlait de croyance, ce qu'il y a de beaucoup plus grave, puisque tu l'évoques aussi par rapport à la science et à la technique, on pourrait dire, puisqu'on parlait de ce monde tel qu'il est organisé, science-technique, il y a une confusion et on essaie, peut-être que le système s'appuie d'une certaine manière sur ces techniques pour dire au plus grand nombre, voyez cette maîtrise de ces techniques par rapport, on peut parler de l'informatique, on peut parler pour la conquête spatiale, ce que ça peut servir, des pseudo-progrès scientifiques dans le domaine médical, des projections de dire on va prévoir dans 15 jours la météo. Donc, pour le plus grand nombre et de façon médiatique, il y a une sorte de messe qui dit on est capable de faire ça. Les puissants, enfin les gouvernements s'appuient dessus pour démontrer au plus grand nombre qu'ils détiennent une forme de malheureusement une part de vérité en disant voyez tout ce qu'on arrive à faire, voyez tout ce qu'on est capable de faire, donc c'est une forme de vérité et c'est pour ça que je disais que tu l'évoquais, s'appuyer sur la technique, s'appuyer sur la science, c'est évidemment une idéologie, hein, nous sommes dans une forme de scientisme débridé et qui conforterait finalement l'organisation du monde. C'est-à-dire que, on voit pour les États-Unis, puisque nous sommes capables de faire dans les domaines scientifiques, spatial, des armes de destruction massive, mais nous on fait des opérations chirurgicales et tout ça, enfin tout ce verbiage, tout ce discours évidemment faux, erroné, mais qui pourrait influencer la plupart des gens. C'est pour ça que le modèle états-unien malheureusement peut servir, peut donner comme une illusion à l'ensemble de la planète, en disant, on voit bien avec Bush, nous on s'appuie sur des forces, mais qui ne sont pas que des forces brutales, malheureusement c'est un peu ça, mais qui sont des forces scientifiques et des forces techniques. Et là, malheureusement, c'est que tout un tas de philosophes, on parlait tout à l'heure de marché, d'intellectuels de marché, tout un tas de gens, de journaleux, tout ça, sont autour pour les épauler. Et ça, c'est quelque chose qui est servi, je pense, à l'ensemble de la planète, que quelque chose d'extrêmement dangereux. Et là, la même manière, par rapport à dans ton ouvrage, tu l'abordes, je pense que c'est ça aussi, c'est que on voudrait faire, pour la psychiatrie, pour la psychanalyse, pour l'ensemble des psychologies, quelque chose de vrai, de juste, et qui pourrait aider les gens, et malheureusement, qui fait leur malheur, voilà.
Oui, cette avancée de la technique, si je reprends un peu les différents points qui viennent d'être développés, c'est la technique, elle a cet idéal de voir l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est toujours intéressant de voir comment la technique agit, c'est voir chez nous ce qui se passe, voir dans notre corps, dans nos cellules, et puis voir, on parlait de l'espace, la conquête de l'espace, voir ce qui se passe au-delà des planètes, au-delà du Big Bang, puisque le Big Bang, tout commence là, on pouvait se dire, bon ben voilà, ça y est, et ben non, maintenant on va voir ce qui se passe avant le Big Bang. Donc c'est toujours ce fantasme de voir de l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est aussi le fantasme du prévoir, on est toujours dans le voir, hein, prévoir le tout préventif. Prévenir au niveau de la santé, au niveau de la météo, tout c'est... Et d'une certaine façon, tout voir et tout prévoir, on retrouve cette main mise sur l'ensemble, sur la société tout entière, cette mainmise qu'on pourrait presque relier, mais qui n'a aucun rapport avec la main invisible d'Adam Smith, cet Écossais qui explique un peu à sa façon les lois du libéralisme. Bon, eh bien, et de l'économie mondiale plutôt.
Oui, comme une vérité, vendue comme une vérité.
Voilà, une mainmise, mais aussi un pouvoir absolu sur chacun. Ouais. Et du fait de ce pouvoir absolu, de cette mainmise sur nous, par ce tout voir et ce tout prévoir, eh bien, on se sent traqué. Et moi, je fais remonter un peu cette stress quotidien de chacun, ces troubles psychologiques qui sont décrits là au quotidien dans les médias. Eh bien, justement, ce sont des symptômes de cette oppression, de cette traque. D'ailleurs, on parle d'un suivi psychologique. On est toujours dans la traque. Et c'est tout à fait juste les journaleux, pour reprendre les termes, les philosophes, les psychologues, les historiens.
Du consensus.
C'est exactement. Des historiens du consensus, c'est-à-dire ils deviennent des agents de la technique, des agents de la maîtrise. Ils deviennent même des militants. Moi, je vois, je ne vais pas citer des noms, mais en fait, il suffit d'aller voir dans les librairies tous ces philosophes hédonistes, ce nouvel hédonisme.
Michel Onfray.
je voulais pas vous effrayer. Tous les deux avec et d'ailleurs je viens de lire un livre tout à fait intéressant sur l'hédonisme de Onfray, un petit livre qui vient de sortir, très intéressant, qui reprend c'est fait par un agrégé de philo que je ne connais pas, et c'est le titre, il vient de sortir chez un tout petit éditeur, et donc c'est sur cet hédonisme, c'est le nouveau, le titre me revient, c'est le nouveau poujadisme hédoniste de Michel Onfray, le titre est assez parlant.
On a déjà invité Michel Onfray il y a une dizaine d'années.
Oui, voilà.
Et effectivement, on n'est absolument pas d'accord sur ses conceptions, mais j'ai vu en plus qu'il prétendait être le nouveau père de l'anarchie, puisqu'il veut faire, et il veut faire un bouquin qui s'appellera « Le vrai socialisme libertaire ».
Voilà. Oui, donc on n'a pas fini de rire. Mais en tout cas, ce livre très intéressant que je recommande à tous, je ne connais du tout l'auteur, c'est pas par amitié ni rien, est très sérieux. C'est fait par un agrégé de philo qui reprend un peu des règles philosophiques en reprenant donc des phrases, aussi la pensée, je dirais, qui se développe dans ces livres, et de montrer que le discours est très clientéliste, et donc on en revient à ces fameux agents de ce discours-là, ces militants. Moi, je redis, je suis toujours méfiant envers les militants, parce que qu'est-ce qu'un militant ? C'est un militaire de la pensée, c'est rien d'autre. Il milite, c'est un mot qui me... J'ai rien contre les militaires en tant que tels, mais en tant qu'individu.
C'est ce que je te disais au début, on a quand même ici, dans les valeurs que défendent les anarchistes, on a toujours ce point de... j'allais dire difficulté. Tu me diras que la contradiction est inhérente à la doctrine proudhonienne ou à la conception de la vie proudhonienne, mais cette antinomie aussi, militer, c'est quand même agir d'une façon trop communautariste, trop militaire.
Il y a le mot, l'origine, c'est pour ça qu'il recouvre.
Et en même temps, ne pas militer, c'est aussi, d'une certaine façon, ça peut être en tout cas considéré comme, au fond, un désintérêt par rapport à l'organisation sociale injuste dans laquelle nous vivons. C'est vrai que c'est un
mot
perpétuel.
Oui, voilà.
Et moi, je voulais te poser une question tout à l'heure quand tu disais que finalement, le stress et même la, des affections psychologiques pourraient résulter de l'excès de contrôle, de l'excès de contrôle social, de l'excès de toutes les mécaniques sécuritaires qui sont mises en place. Alors que quand on voit, par exemple, les cellules psychologiques ou bien les caméras de surveillance, on pense que c'est pour éviter justement une trop grande maladie, une trop grande un trop grand trouble chez les gens qui se disent oh là là, je vais être à la merci d'un voleur, d'un terroriste, ou bien je vais être désolé de pas m'inscrire dans le modèle social officiel. Donc, est-ce que là, il n'y a pas une contradiction? Autrement dit, est-ce que... Ou alors, peut-être que les deux peuvent provoquer des troubles.
Oui, moi, je ne le vois pas comme une contradiction, mais que, oui, c'est un paradoxe. Voilà, c'est ce qui apparaît. C'est l'apparence, justement, que ça vient nous aider et diminuer le stress. C'est l'inverse. Plus on est surveillé et plus on est traqué. Enfin, c'est très animal, ça. On est regardé, on est calculé, on est dosé, on est quotidiennement. Simplement, une fois qu'on a fermé la porte de sa maison,
oui,
on continue d'être surveillé.
Ça, oui, oui.
Faites cette expérience qui est très difficile à faire aujourd'hui, de tout débrancher. Débrancher tout ce qu'il y a à la maison. Eh bien, il y a une sorte déjà de repos qui se fait et on se croit déjà très loin de la société.
Ouais.
Alors, et le débranchement, c'est vraiment quelque chose qui est technique. C'est-à-dire, alors, nous, comment débrancher par la pensée, on ne peut pas. Je voulais quand même revenir sur cette question de militant, parce que là aussi, il faut bien s'entendre. Moi, j'ai tendance à critiquer le militantisme, mais en même temps, effectivement, comment avancer dans la pensée sans un aspect militant. Donc, qu'est-ce qu'on entend par militant? Si c'est être militaire, moi je critique dans
si
le militant,
c'est militaire,
le voilà.
Militaire, voilà.
Militaire de la pensée.
Bien sûr, voilà.
Philosophie contre la pensée et l'action.
Oui.
Le...
Et c'est pour ça que dans le début du livre, je reprends un peu. Alors, je reprends un peu l'idée de la définition de Sartre, tout en disant que par rapport à Sartre, j'ai des sentiments extrêmement partagés parce que je pense qu'il est capable, il a été capable, il l'a montré par des phrases, par des idées comme ça qui sont assez formidables, enfin il y a un côté génial. Et puis en même temps, je suis pas du tout, moi, dans un sartrien, je suis pas du tout dans le système Sartre. Les derniers mots des mots, justement, qui est un livre qui est très bien écrit, que je trouve formidable à plein d'égards, mais les derniers mots, les dernières phrases des mots, moi, ça me fait froid dans le dos. Justement, c'est la disparition de l'individu. Je l'ai dit de mémoire, c'est si je range l'inutile salut, parce que justement, lui, il n'est pas dans la foi. Si je range l'inutile salut au magasin des accessoires, je le dis à peu près de mémoire, hein, que reste-t-il? Un homme fait de tous les hommes qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Donc, il n'y a plus d'individu nulle part. Ça me fait froid dans le dos.
C'est
Certains prennent cette phrase comme un grand moment de la pensée.
Ou égalité, quoi, qu'il voudrait dire. Voilà, dans ce terme-là. Mais c'est ça qui est en jeu. Oui, c'est
nous
ça.
Qui aimons et qui développons souvent les idées de Camus, je comprends pourquoi il y avait une opposition entre les deux, parce que c'est une absence totale de l'individu.
Moi, je trouve.
Oui, tu parles de Sartre un peu dans ton bouquin, justement, par rapport à ça. Et je voulais citer, enfin pour les auditeurs, on reviendra, un petit bouquin, c'est paru déjà, mais il y a une réédition, « L'œuvre et l'action d'Albert Camus dans la mouvance de la tradition libertaire ». Alors il y a une préface de quelqu'un qu'on connaît bien, Roger Dadoun, et l'intérêt peut-être de cet ouvrage, de repréciser par rapport à Camus, et les comparaisons avec l'époque par rapport à Sartre, et Dadoun, dans cette petite préface justement, puisqu'on l'évoque, il dit, pour Sartre, la différence avec Camus, justement, les bagarres qu'il y a eu à l'époque, hein, c'était, fallait être sartrien, hein, je sais pas, faut se souvenir, de dire que lui, pour Sartre, il était, alors là, du côté du pouvoir. Alors voilà, donc ça c'est très 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 grave, parce que là tu l'évoques aussi. À un moment tu parles des intellectuels, là aussi il faut dire que le mot est galvaudé.
Oui.
On serait à une époque où de dire que se réclamer d'être un intellectuel, il faut pas, puisqu'on entend les gamins, ah c'est un intello, hein, donc voilà, et de signifier ce que ça veut dire. Mais tu dis, justement c'est très important par rapport à ton ouvrage, tu l'évoques, cette rupture, je crois, justement, avec le pouvoir. Et avec tous les pouvoirs, puisque tu évoques Barthes. Et ça, c'est très important, si tu veux en dire quelques mots.
Oui, c'est très très important cette définition que je reprends, enfin, de Sartre sur la position intellectuelle. Elle me paraît juste parce que le mot me paraît juste. En tout cas, il dit faut distinguer les intellectuels de ce que l'on appelle les techniciens du savoir pratique. Et les techniciens du savoir pratique, moi, j'en suis entouré quotidiennement. Je ne parle pas que dans les hôpitaux, mais voilà, on peut en trouver dans le domaine du journalisme. Alors, on peut les appeler les journaleux, pourquoi pas, j'aime bien le mot. On en trouve dans le domaine de la philosophie, de la psychologie, de la médecine. On peut en le trouver dans les domaines de la plomberie, dans tous les domaines, ingénieurs, bon, écrivains. Eh bien, ce sont les techniciens du savoir pratique, ce sont des gens qui appliquent la science qu'ils ont apprise. Et cette science-là, comme toute science, repose sur des lois universelles. La science, ça s'applique à tous. Le savoir de la science, en tout cas. Eh bien, l'intellectuel, il dit, Sartre, il est recruté dans ces techniciens du savoir pratique. Et en quoi ça consiste, cette position intellectuelle? Eh bien, c'est de dénoncer justement la contradiction qu'il y a entre les lois universelles de la science et la position de l'individu, l'individuel. Bon, Sartre, il donnait l'exemple à l'époque de ces fameux ingénieurs de centrales nucléaires, enfin dans la science de l'atome. Et ils ont des lois générales qu'ils apprennent et qu'ils mettent en pratique. Et l'intellectuel, c'est celui qui dit attention. Là, il y a une contradiction entre ces lois-là et puis ce qui se passe au niveau de l'individu qui... Et puis tout ce que l'on sait des malheurs du nucléaire. Bon, donc voilà la position intellectuelle. Donc cette position intellectuelle est une position par définition seule, position de solitaire.
Et une position critique. Si je
critique, critique. Et donc qui ne s'apparente pas à ce militantisme qu'est militarisme de la pensée. Voilà, c'est dans ce sens-là. Mais en même temps, un intellectuel... D'une certaine façon.
En faisant ça, il milite.
Il milite, voilà. Donc c'est pour ça que ce mot, là aussi.
Voilà,
un non, mot
mais l'ambiguïté. Voilà, l'ambiguïté de ce mot, de redéfinition.
Oui, en fait, et aussi de. Dire, il agit, quoi. C'est
de tous les pouvoirs. Alors, on évoquait ça par rapport au pouvoir et Barthes que tu cites dedans. Oui. C'est pas simplement, je disais, donc le positionnement. Hein, vous êtes, c'est facile à voir, on pourrait dire, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, vous êtes. Si vous n'êtes pas contre les pouvoirs, eh bien vous êtes pour.
Oui.
Il n'y a pas là. Alors évidemment, ça serait enfermé. On refuse ça aussi les gens dans ces pensées binaires, de là ou l'autre. Mais en tout cas, pour ce qui est de définir par rapport à la pensée, par rapport à ce travail de la pensée, c'est et aussi comme on fait une forme de dénonciation de tous ces intellos, comme on dit, du marché, des intellos de marché médiatiques qui gagnent les professionnels aussi de la pensée, c'est ça. Et de voir que cette rupture, tu l'évoques aussi, c'est pas simplement, bon, on pourrait dire pour Sartre et Camus, on l'a parlé pour le pouvoir, mais de dire contre tout les pouvoirs.
Voilà, ça c'est ce fameux discours de Barthes, discours inaugural, je crois, voilà, au Collège de France, que vraiment j'encourage à lire parce que c'est un texte, je découvre sans arrêt des choses dedans, un petit texte, mais vraiment bien. Et c'est donc dans ce texte-là qu'il parle de cela, c'est-à-dire on dit souvent que les intellectuels critiquent le pouvoir, non, ils critiquent les pouvoirs, tous les pouvoirs en place, je crois que ça c'est vraiment la
pour les intellectuels. Alors juste ce qu'on dira à Barthes, c'est lesquels actuellement,
parce que aujourd'hui, bien entendu, c'est les techniciens du savoir pratique qui viennent militer qui sont les agents justement du pouvoir.
Voilà.
Alors on est très loin de ce.
Et là, ce qu'on dit, c'est que tous les appareils médiatiques, les journaux, enfin tout ça, c'est ça le problème actuellement nos sociétés, c'est que ceux qui pourraient critiquer l'ensemble de ces pouvoirs, est-ce qu'ils viendraient? Tu vois, par rapport à pouvoir l'exprimer, justement, sur une chaîne de télé ou tout ça, en étant rien d'autre que des faire-valoir, je pense, de l'idéologie dominante. C'est l'enfermement dans lequel on se trouve dans ce positionnement actuellement. Alors juste, Serge Tribolet, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et un auditeur tout à l'heure nous posait une question. Alors, c'est pour rigoler un petit peu. Il faut rigoler, puisque tu as fait un ouvrage sur le rire.
Oui, l'anthologie du rire.
Voilà, donc vous recommande aussi l'anthologie.
C'est un sujet philosophique. Hein.
Alors, quand c'est sur des radios, mais là, c'est sur Radio Libertaire, c'est particulier, il y a eu tout un tas d'émissions, il y avait le doc, des jeunes qui posent des questions, il y a eu, enfin, sans revenir sur Ménie Grégoire, sur toutes les émissions de psy, on évoquait tout à l'heure aussi psychologie, le Servan Schreiber, puisqu'on en a parlé, il y en a un qui est mort, là, et Servan Schreiber, l'expansion, il est passé, ça faisait pas assez de pognon, donc il est passé à une revue qui s'appelle Psychologie, apparemment, ça marche bien, et donc l'auditeur nous demandait Comment dans le travail, puisqu'on parlait, dernièrement on en a parlé, on l'évoque, enfin ce film-là va peut-être sortir en DVD, J'ai mal au travail, pour cet auditeur, il disait lui sa souffrance, il exprimait sa souffrance au travail, et il disait sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, tout ce qu'il ressentait, il avait une colère intérieure très forte, mais il ne pouvait pas l'exprimer, parce que s'il l'exprimait, ça faisait tellement mal qu'il risquait de se faire virer. Alors voilà, hein, je dis, que doit faire cet auditeur? Que peux-tu faire pour lui?
Oui, c'est, en même temps, c'est un cas individuel, là, justement. Oui. Donc, je ne vais pas ramener une loi générale à l'individu. Il faudrait voir qu'est-ce qui lui fait mal dans cette position-là. Le titre « J'ai mal au travail », c'est un pléonasme, hein, puisque le travail, c'est déjà...
Tripalium.
Torture. Voilà, et les femmes qui... dans la grossesse, arrive dans cette phase de travail, de douleur. Bon, donc le travail, ça porte ça. Mais après, pour cet auditeur, il faudrait voir qu'est-ce qui se passe dans sa situation.
Non, je crois qu'il voulait dire, puisqu'on l'évoquait par rapport à l'ouvrage, l'abus de psy, comment l'ensemble de bataillons d'armée, dis de psychologues, enfin de psy, essaie de calmer tout un tas de gens qui vont très très mal sur le lieu de travail, hein, avec donc les cadences, les pressions qu'on peut leur mettre sur eux, et comment souvent il y en a plein qui craquent, donc arrêt de travail et tout ça, le contrôle envoi à sécurité sociale, et comment pour eux, eh bien le recours, c'est soit de s'arrêter, les met en maladie ou en longue maladie, ou même sans ça, eh bien on leur donne des tranquillisants, le mot tranquillisant, les tranquillisent ou on les endort, hein, voilà, pour qu'ils contiennent, pour pouvoir résister, tout du moins pour pouvoir continuer à prendre des coups.
Pour pouvoir supporter, c'est aussi un peu dans l'entreprise, dans le travail, il y a aussi le syndicat. Alors le syndicat, c'est aussi, là aussi, il y aurait beaucoup à dire sur ce mot, parce que je ne vais pas remuer des choses, c'est quand même le syndicalisme, comme il se présente aujourd'hui pour la majorité, c'est quand même le moyen de faire passer la pilule. Ah, donc c'est de la psychologie, c'est le lieu de la psychologie. Ce sont des agents de l'État. Un syndicat ne défend jamais quiconque individuellement. D'ailleurs, le syndicat, il ne raisonne pas au niveau de l'individu, il raisonne au niveau du collectif. Donc c'est un peu cette participation de la psychologie par le biais des psychologues du travail, de ce que l'on permet aux gens pour qu'ils soient plus efficaces dans les entreprises. Faut les voir. Maintenant, il y a des séances pour augmenter l'efficience. Bon, le syndicat participe très souvent, pas toujours, mais très souvent de ce discours-là. Et donc l'individu disparaît au sein de l'entreprise et devient un rouage de cette grande mécanique et on y met de l'huile. Alors l'huile syndicale, l'huile psychologique, c'est la même huile, c'est le même bidon au départ. C'est assez triste comme...
On voit Charlie Chaplin, hein, c'est les temps modernes.
Oui, bien sûr. Mais
il dit de mettre de l'huile dans les rouages, c'est ça.
Exactement ça.
D'accord. Alors, là, il reste, Jacques, 4-5 minutes. Je voulais évoquer...
Comment tu as structuré ton bouquin, moi qui ne l'ai pas lu? Tu l'as structuré en chapitres. Il y a 3 ou 4 thèmes que tu as
abordés.
Comment ça s'est passé?
Alors, le premier chapitre, c'est une préface pour ceux qui lisent vite, comme je le dis, parce que c'est une sorte de résumé, enfin de présentation du problème. Ensuite, j'aborde la question du... parce que je prends l'axe philosophique pour dire ça, parce que on pourrait me dire ce livre est pas tellement grand public. Pourquoi? Parce que j'y fais des références à Barthes, à un certain nombre de philosophes, parce que je pense que citer aujourd'hui, maintenant ça fait bien de pas citer les gens ou de les citer sans dire qu'on les cite. Moi, je pense que citer, on va butiner sur les fleurs de ce que la pensée nous a apporté, puis on fait notre propre miel avec. Voilà, c'est ça, je pense, l'importance de la citation. Et donc je développe l'idée au fur et à mesure, je passe par la science. Le premier chapitre concerne mon parcours en médecine, c'est-à-dire par où je suis passé pour arriver en psychiatrie et pour revenir d'une certaine façon en psychiatrie, c'est-à-dire avec mes amours premiers qui étaient la littérature et la philosophie. Parce que je pense que la psychiatrie, justement, malheureusement, elle a coupé ses racines avec la philosophie. Donc je développe ça dans une première partie. Ensuite, je parle d'éléments dans la société comme le couple. La fin de l'ouvrage, je vais très vite sur l'ouvrage. Oui, la fin de l'ouvrage, parce que la fin de l'ouvrage, je reviens sur des éléments qui me sont chères, qui sont ce discours actuel, cette surdité de la société par rapport à la folie, que l'on voit aussi bien dans le type de soins. Je le disais tout à l'heure, on réduit la folie à la maladie mentale, donc on passe à côté d'un savoir immense. Et je traite, pendant tout un chapitre que j'intitule « L'antipsychologie », de ce que Freud voulait quand il a élaboré la psychanalyse. L'œuvre de Freud est une antipsychologie. Et le grand drame actuel qui avait déjà été dénoncé par Lacan lui-même, c'est de dire que beaucoup de psychanalystes ramènent la psychanalyse du côté de la psychologie. Donc on psychologise tout, même la psychanalyse, c'est dire à quel point le mal est avancé, puisque le projet initial de la psychanalyse, c'est de dire « attention, l'essentiel de ce qui se passe pour l'humain n'est pas dans des catégories psychologiques ». Le piège de tout, la difficulté pour la psychanalyse, en particulier pour Freud, a été de dire ça tout en utilisant les concepts de la psychologie. On en revient à tous ces paradoxes, un mot qui signifie plusieurs choses. Bon ben, Freud, qui est un génie, élabore la psychanalyse, et bien obligé d'utiliser le matériel présent.
Qui était là à ce moment-là.
Qui était là,
oui,
voilà.
C'est ça. Moi qui ne l'ai pas lu, mais simplement lu des commentaires, pour moi c'était surtout l'inconscient et l'analyse. De ce qui, enfin l'analyse, l'essai d'analyse,
oui, oui,
de ce qui se passe en dehors de ce dont on est conscient.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais cet inconscient-là n'est pas une fonction psychique quelque part dans notre cerveau. C'est bien quelque chose qui est extérieur à nous. Et l'inconscient n'est pas en nous, je dirais d'une certaine façon, c'est nous qui sommes dans l'inconscient.
Et ça rejoint ce que tu disais sur la pensée.
Oui,
en
oui,
général.
Oui. Voilà, et c'est aussi le lien que je fais avec la thèse de philosophie que je termine actuellement, qui est justement sur la pensée extérieure. Mmh. C'est-à-dire la pensée, je le dis aujourd'hui, la science, elle réduit la pensée à une fonction, à un ensemble de fonctions psychiques qui sont dans notre cerveau. Mais en disant ça, elle confond les fonctions cognitives avec la pensée. Les fonctions cognitives, c'est-à-dire mémoire, jugement, tout ce qui permet de vivre dans ce monde, ça existe chez l'animal.
Allô.
Voilà, et donc la pensée, c'est extérieur à ça.
Voilà, alors Jacques, ben c'est midi, hein, donc
oui.
l'émission se termine. Alors avec vous allez retrouver The Rhymes and Donuts avec Marlène et ses invités. Donc rappelez ce matin Serge Tribelet, notre invité, hein, L'abus de psy, nuit à la santé, ouvrage publié au Cherche Midi, c'est sorti il y a quelques semaines.
Voilà, à peine un mois, et je vous remercie mille fois.
Alors aussi, je voulais citer quand même celui-là, La folie, un bienfait pour l'humanité, que tu as écrit aussi avec tout un tas. Alors là, c'est un petit peu plus, on va dire un peu plus savant, hein, plus savant, mais dans le bon terme, hein, que voilà aussi, puisque l'époque, c'est de dire il faut pas être savant. Alors là aussi, publié aux Humanités, édition de santé, en particulier, vous pourrez trouver cet ouvrage-là, je dis dans des bonnes librairies, mais aussi à la Halle Saint-Pierre. À la Halle Saint-Pierre, c'est rue Ronsard, musée Art Naïf, hors normes, art brut, et on annonce aux auditeurs les 20 ans de la Halle Saint-Pierre, ça se passera début décembre, et je crois que Serge Tribelet, tu ferais une intervention, et en particulier, tu nous parleras d'Unica Zurn, qui a actuellement, si ça intéresse les auditeurs, qui a été la compagne de Hans Bellmer, de voir cette exposition en ce moment là à Halle Saint-Pierre, le lien avec aussi, je crois, l'éloge de la folie, d'une certaine manière. Donc tu interviendras pour ces 20 ans à la Halle Saint-Pierre, et je vous conseille aussi cet ouvrage publié chez Gallimard Collection Imaginaire, L'homme jasmin d'Unica Zurn, et aussi d'aller voir cette très belle exposition actuellement à la Halle Saint-Pierre rue Ronsard, dont aucun journal évidemment du marché ne parle en ce moment. Donc évidemment, vous êtes sur Radio Libertaire si vous voulez avoir un petit peu des